il y a un secret à l'intérieur des livres, il y a un secret que l'auteur a mis dans son histoire, mais il y a un secret souvent sur nous-mêmes. Souvent, on apprend des choses sur soi quand on lit. On y trouve des choses qu'on n'avait pas prévu de trouver.
Bonjour, je suis Amélie Cordonnier. Bienvenue dans Secrets d'écriture, le podcast littéraire de la rédaction de Femmes Actuelles. Chaque semaine, un auteur ou une autrice partage avec nous ses secrets d'écriture. Aujourd'hui, nous recevons Christophe Enodibio pour Trouver refuge, paru aux éditions Gallimard le 18 août 2022. Christophe Enodibio réussit là un sacré livre. C'est le cas de le dire, puisque ce roman est baigné de chants et de prières byzantines. Il y plane une tension dingue, vous verrez. Je l'ai trouvé intelligent, exaltant, palpitant, éclairant. Je n'en jette plus. Plongez-y et laissez-vous emporter en Grèce, jusqu'au mont Athos, ce sanctuaire où se dressent des monastères dont les règles byzantines interdisent l'accès aux femmes et aux femelles depuis le XIe siècle. C'est là, dans ces eaux turquoises, que Sacha fuit avec Irène, sa merveilleuse petite fille de 7 ans, qui ressemblera peut-être à certaines que vous connaissez, pour échapper à papa, le président nationaliste fraîchement élu. Christophe Enodibio ne va pas vous lire un passage, mais deux passages, l'un qu'il a choisi et l'autre que je lui ai un petit peu demandé de lire parce que je l'ai adoré et j'espère qu'il va vous plaire. Il nous livrera ensuite quelques-uns de ses secrets d'écriture. Écoutons-le. Bonjour Christophe Enodibio.
Mais bonjour.
Je suis ravie de vous recevoir dans Secrets d'écriture. Nous débutons toujours cet entretien par une question qui a l'air très simple, mais qui ne l'est peut-être pas forcément. Comment définiriez-vous l'écrivain que vous êtes en un mot ?
Je dirais obsédé par les sensations. « Va chercher Irène, » dit Mina. L'inquiétude se lit sur son visage. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle se retourne doucement, plisse les yeux comme pour voir plus distinctement. « Va chercher Irène, s'il te plaît. » Sacha empoigne son sac à dos et se dirige vers le quai. La petite semble interdite, immobile devant un spectacle qu'il n'arrive pas bien à distinguer. Lorsqu'il arrive à sa hauteur, elle glisse sa main dans la sienne, comme pour se rassurer. C'est un poulpe que les gamins ont sorti de la mer et qui rampent avec effort, les tentacules en bataille, luisants et vulnérables sur la pierre brûlante du quai. Il essaie de regagner l'eau, sa liberté. L'émotion gagne Sacha. Ce n'est pas beau à voir, mais la détermination de l'animal à ne pas se laisser condamner force le respect. Il se tourne vers sa femme et c'est alors qu'il les voit, deux jeunes hommes, qui se dirigent vers la place qu'il occupait avec Mina il y a quelques minutes. Ils sont précédés par le patron de la taverne qui leur désigne du doigt l'endroit précis où ils étaient assis. Et à cet endroit, où aurait dû se trouver Mina, il n'y a plus personne. Sa femme a disparu. Son téléphone jetable bip. Il l'extrait de sa poche et lit le message.
« Emmène-la et partez. »
C'est comme si la terre s'ouvrait sous ses pieds. Les deux hommes parcourent la terrasse. Des limiers qui furettent. Sacha ajuste sa casquette et avise le bateau et la passerelle devant eux. Il se tourne une dernière fois vers la taverne. D'où lui écrit Mina. Il est paralysé par l'hésitation. La sirène mugit à nouveau. Son cœur bat à tout rompre. Un autre message s'annonce par une vibration dans sa main.
Partez.
Sacha jette un ultime regard aux enfants et aux poulpes qui, enfin, parvient à rejoindre l'eau où il plonge. Il saisit la main de sa fille et se dirige avec elle vers la passerelle. Ils ont tout juste le temps de la traverser avant qu'on ne la retire. « On fait quoi, papa ?» demande Irène, paniquée. « Ne t'inquiète pas, » lui dit-il, en s'enfonçant avec elle dans le ventre du bateau. Parfois, le sentier quitte la forêt et ils embrassent alors du regard la totalité du paysage, depuis les fougères poussant à leurs pieds jusqu'aux cyprès qui s'élancent vers le ciel comme des torches. Sacha se sent minuscule et heureux d'être minuscule. Il tient sa fille par la main et ça lui suffit. Sa grande main, contenant sa petite main dans ce jardin considérable où ils ont trouvé refuge, protégé par son labyrinthe naturel, oublié des cartes et des GPS. Il essaie d'imaginer ce qui peut traverser la tête de sa fille, confrontée à ce monde aussi beau qu'étrange, comme sorti des pages d'un livre de légende. « Et quand tu es venu, tu l'as vu la Vierge ?» Il rit. « Non, mais on la verra peut-être ensemble. »« Et des anges ? Tu en as vu des anges ?» Lui n'a pas besoin d'anges. Il a déjà le sien et il a 7 ans. J'avais choisi d'abord un passage qui concerne uniquement Sacha, le père de famille et sa petite fille, puisque Trouver refuge raconte donc la fuite très pressée hein, d'une famille, donc de Mina, Sacha et cette petite fille, Irène, vers l'endroit où ils pensent être en sécurité. Et cet endroit, c'est le Mont Athos, et c'est un endroit que je connais bien, qui m'a absolument fasciné, qui continue à me fasciner, dont la beauté me renverse à chaque fois, et qui est un endroit, c'est comme un jardin d'Éden qui n'aurait pas été touché depuis presque la création du monde, de forêts, de buissons, de plantes, de fleurs, entouré par la mer. Et je voulais vous donner à entendre cette... ou à voir hein, par les mots, cette ambiance de nature et surtout le fait que on se retrouve, et c'est rare dans notre monde, dans un endroit que les GPS ne peuvent pas décrire. Donc cette petite main, la petite main de cette petite fille dans la grande main de son père, au milieu de cette nature absolument envoûtante et j'allais dire profuse et intacte. Donc je voulais qu'on entende ça. Un père et sa fille dans le silence, alors le silence bruyant d'ailleurs de la nature, mais comme s'ils s'étaient retrouvés justement dans un jardin d'Éden sans personne. Il y a des gens sur le mont Athos, dans ces monastères qui surgissent parfois comme des châteaux de contes de fées, mais pour l'instant, ils sont dans la nature. Donc je voulais qu'on entende ça. Et le deuxième passage que j'ai lu en premier, sans trop divulgâcher comme on dit, explique en fait ce qui va se passer après, c'est-à-dire que Mina, ils sont en Grèce, ils sont dans une ville qui s'appelle Ouranopolis, qui veut dire la ville du ciel, qui est la porte d'entrée vers le mont Athos. Le mont Athos est une presqu'île, donc l'accès par la terre est fermé, et il faut prendre un bateau, il faut embarquer. Et en fait, au moment où ils vont embarquer, Mina voit quelque chose, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui lui dit « va chercher Irène ». Et en fait, ils communiquent par téléphone, ça va être... grand motif du texte, cette communication ou cette incommunication dans les endroits où ça passe pas, et sur le mont Athos souvent ça ne passe pas, et elle lui dit de partir avec cette fille. Et donc ils partent ensemble dans le ventre de ce bateau qui va les emmener vers ce jardin d'Éden. Et Mina ne peut pas embarquer. Et le problème, et c'est un des motifs du texte, c'est que Sacha ne sait pas. Il a vu, ils étaient ensemble sur une terrasse, prenant un café avant d'attendre le bateau. Et en fait, elle a disparu. Elle communique avec lui par le téléphone en lui disant « Partez, emmène Irène ». Ce qu'elle veut, elle, c'est qu'Irène, leur fille, le produit de leur amour, soit en sécurité. Et elle a disparu. Et c'est un roman qui repose sans arrêt sur le fait que Sacha ne sait pas ce que fait Mina. Mina ne sait pas ce que fait Sacha. Or, l'enjeu, c'est la sécurité de la famille. Ils ont été séparés. Comment tout ça va se résoudre ? Vous le saurez en lisant « Trouver refuge ». Ce roman, il est né d'une image. Souvent, mes romans naissent d'une image qui surgit sans que je sache vraiment d'où elle vient. Et tout le travail va être ensuite d'enquêter sur cette image pour savoir ce qu'elle veut dire et qu'est-ce qu'elle raconte. Et ça fait un roman à la fin, au bout de 5 ans, pour trouver refuge. Dans Plongée, par exemple, c'était le corps d'une femme nue, abandonnée sur un rivage, comme si elle dormait avec le sel qui caramélisait sur sa peau, qui scintillait sur sa peau. Voilà, l'image m'était apparue comme ça. Et le héros était appelé, on lui disait, voilà, votre femme est morte, il faut venir reconnaître le corps. Et en fait, tout partait. Déjà, l'élément aquatique était là. C'est-à-dire, cette femme était forcément quelqu'un qui venait de l'eau, une sorte de femme aquatique. Paz, elle s'appelait, et on allait découvrir toute la vie de cette femme. Ça partait de cette image assez énigmatique. Pour trouver refuge, c'est parti de l'image de la petite main d'une petite fille dans la grande main de son père, au milieu d'une nature qui nous submerge de beauté, de vert, de parfums. Et en enquêtant sur cette image, je me suis dit, mais ils sont où en fait? Où est-ce qu'ils sont? Pourquoi la petite main dans la main de son père? Déjà, le danger, sensation de danger. Ils sont en fuite, un père et sa fille. Où dans cette nature? À quel lieu apparaît cette nature? Très vite, il est apparu que ça serait le mont Athos, qui est un lieu qui m'obsède depuis 20 ans, qui se trouve au nord de la Grèce, entre la Grèce et la Turquie. Vous avez trois doigts qu'on appelle la chalcidique, trois doigts, trois presqu'îles. Ça fait vraiment comme une main à laquelle il manquerait deux doigts, donc. Et le troisième doigt, c'est le mont Athos. Ça fait à peu près 50 km sur 10 de large, avec tout au bout une montagne, d'où le nom de mont Athos, qui culmine à 2000 mètres et qui tombe dans la mer Égée, bleue, magnifique, transparente. C'est un lieu où il est interdit d'aller si on n'a pas une autorisation spéciale et où il est vraiment interdit et impossible d'aller si on est une femme et si on est un enfant. D'où le panneau qui est à l'entrée de ce territoire qui dit que c'est interdit à toute femme, à toute femelle et à toute imberbe aussi. C'est un endroit entièrement autonome qui existe. Hein. Moi, j'y suis allé vraiment à plusieurs reprises, jusqu'à même y emmener mon fils il y a quelques années, qui avait à l'époque 9 ans. Il était un peu plus âgé que cette petite fille dans le livre. Et c'est un endroit absolument beau, entièrement fermé, dont on ne connaît pas les règles de vie. Il y a 20 monastères qui sont semés dans ce paysage, donc des montagnes, des forêts, la mer tout autour, et je vous le disais, on n'y accède que par bateau. Dès qu'on monte sur ce bateau, on est entouré de moines orthodoxes, jeunes ou vieux d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi, qui ont renoncé à la vie qu'on mène ici dans notre monde. Et on est sur le bateau, dans un paysage magnifique, et soudain surgit un monastère fortifié, avec des tours, d'architecture byzantine, parfois des coupoles. Il y a un monastère russe dont les coupoles sont dorées et scintillent dans le soleil. On est dans un autre monde. Et je me suis dit, au fond, voilà, il faut que je revienne à cause de cette image qui m'est apparue sur le mont Athos. Donc mes personnages, ils fuient sur le mont Athos. Pourquoi le mont Athos? Pourquoi ils choisissent d'être là? C'est comme ça que je procède. Et ensuite, en cheminant presque rétrospectivement, j'imagine, voilà, ils sont en fuite. C'est le mont Athos parce que c'est un lieu religieux. Donc, s'ils y vont, c'est parce que cet endroit-là va être protégé. Pourquoi? Parce que la France a basculé dans un régime politique qui n'est pas une dictature, mais qui est un régime autoritaire qui prétend aussi restaurer des valeurs religieuses. Donc là, ils seront dans un sanctuaire. L'homme d'État qui les recherche ne pourra pas aller les chercher là-bas parce que, justement, il est censé, lui aussi, respecter ce lieu. Et pourquoi il doit fuir? Eh bien ça, ça m'a pris un paquet d'années. Forcément, le héros part là avec cette petite fille parce que il est en train, par une phrase malheureuse, de révéler un secret sur le passé du chef d'État. Et c'est tout ça, cette simple phrase, qui va mettre en branle toute la mécanique. Et cette femme qui ne peut pas embarquer, Mina, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est comme ça, en fait, qu'on procède. Mais elle, j'avais déjà prévu qu'elle ne pourrait pas embarquer, parce que, comme c'est un roman qui multiplie les points de vue et les personnages, je voulais le point de vue du père. Il y a la petite fille, c'est pas un point de vue, mais on l'entend beaucoup parler, elle a 7 ans. Et puis, le point de vue de Mina, qui, elle, veut réparer la catastrophe en retournant à Paris. Donc, c'est une mécanique sans cesse, j'allais dire, remise sur le métier, mais ça part d'image. Et mon écriture est toujours très visuelle, c'est-à-dire je vois les images avant de mettre des phrases dessus. Si je dois décrire un paysage d'un pays quelconque, il faut que je sois allé dans ce pays. Ce sont des vrais romans, des vraies fictions, mais appuyées sur le réel. C'est comme si je mentais si je n'avais pas expérimenté les choses dont je parle, en fait, les éléments, le paysage, les sensations, les parfums. Et pourquoi j'ai choisi le passage où il y a ce père et le fils dans la nature, c'est que ça m'a rappelé à moi aussi des moments où j'étais dans cette nature du mont Athos, dans ces forêts, au milieu, j'allais dire, des parfums, des arbres, de la mer aussi, hein, les parfums, puisque la mer nous environne. Et puis soudain, je sentais un parfum d'encens, l'encens, voilà, des rituels byzantins, des rituels orthodoxes. Je ne voyais rien. Et le rideau des arbres s'ouvrait, je continuais ma marche, et là, un monastère surgissait que je n'avais pas vu, mais que j'avais presque senti avant de voir. Et l'écriture des sensations, donc la vue, hein, avec ces images, mais aussi les parfums, le toucher, les peaux, Tout ça, ça conditionne en fait mon écriture depuis longtemps déjà. J'ai commencé ce livre il y a 5 ans, vraiment, je vous l'ai dit, guidé par cette image d'un danger qui menace une famille. Et pourquoi ce danger ? Parce que pour moi, on était en train de vivre une période où on voyait pays après pays, au cœur de l'Europe, des régimes autoritaires se mettre en place, limitant de plus en plus les libertés des gens, des concitoyens. Et longtemps, j'ai cherché, je me suis dit, mais où est-ce que ça se passe ? Et très vite, il m'est apparu qu'au fond, ce qui était plus fort et ce qui finalement peut-être m'angoissait plus, moi, c'est que ça se passe en France, dans un pays gouverné par un chef d'État autoritaire, mais autoritaire, j'allais dire, sans prétendant agir pour le bien, pour les biens des gens. Ça ne pouvait pas être en 2022. À partir du moment où j'écris sur la France, il y a une réalité française qui est 2022. Donc j'ai glissé quelques années vers 2027, c'est-à-dire la prochaine élection présidentielle, pour faire comprendre aux lectrices et aux lecteurs qu'on avait justement changé de gouvernance. Donc ce n'est pas une dystopie au sens d'Orwell. En fait, on est à notre époque, sauf qu'on est 5 ans en fait plus tard. Parce que je ne pouvais pas prétendre qu'en 2022, au pouvoir, il y a justement quelqu'un qui veut rétablir les valeurs chrétiennes, limiter les libertés des artistes, neutraliser absolument tout débat politique. Donc il fallait que ça soit 2027. Donc trouver refuge se passe en 2027 dans une France qui a basculé. Ce qui me permettait aussi de parler de notre époque, c'est-à-dire une époque où les lâchetés reviennent, où l'engagement disparaît. Et ce qui m'a le plus effrayé en écrivant le livre, c'est que donc je l'ai commencé aux alentours de 2017. Et j'ai rendu le manuscrit en janvier dernier. Juste un mois après, il y avait la guerre en Ukraine, avec des gens qui vraiment trouvaient refuge. Ensuite, on a eu le résultat des élections législatives où on a vu d'abord, on a dit, bon, Mélenchon fait une percée, etc. Mais très vite, on s'est aperçu qu'en fait, c'était l'extrême droite qui était renforcée et qui était la vraie force. Et qui en plus, et c'est ça qui m'a effrayé parce que ça correspondait tout à fait au livre, qui prétendait, en tout cas qui disait, jouer le jeu démocratique. C'est-à-dire, voilà, on va être ponctuel à l'Assemblée nationale, on va travailler avec tout le monde, etc. Et donc, en fait, se préciser de plus en plus ce qui se met en place dans le livre, c'est-à-dire un gouvernement, enfin, effectivement, oui, d'extrême droite, mais qui prétend plus être extrême, qui dit, mais nous, on est juste le bon sens, on veut juste défendre les gens. Les gens, ils ont besoin de protection, donc nous, on le fait, ce qui n'a pas été fait depuis longtemps. Il y a des gens qui sont choqués, donc des artistes qui choquent, il faut qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils arrêtent de choquer, et ainsi de suite. Et en fait, c'est un discours qu'on entend de plus en plus. Donc j'étais rattrapé, je ne pensais vraiment pas que ce que j'avais imaginé en croyant vraiment exagéré, enfin, pas vraiment, mais exagéré un tout petit peu, était en train, finalement, d'arriver jusqu'à la chose la plus terrible, c'est que d'en trouver refuge, ils sont en train de revenir sur le droit à l'avortement. Et au fond, la décision dans certains États américains est tombée. J'avais rendu le livre. Et là, et même le gag, c'est que papa, parce qu'on l'appelle papa, en fait, hein, ce chef d'État, on l'appelle papa parce qu'il prétend justement protéger les gens comme un papa. Alors, c'est un jeune papa. Donc, au départ, ses adversaires politiques se sont un peu moqués de sa jeunesse. Il dit non, il peut y avoir un jeune papa. Il prétend vraiment endosser le rôle de protecteur de la nation. Après, il y a un jeu entre deux formes de paternité, mais ça, j'y reviendrai. La paternité de Sacha, père de famille, qui est une paternité qui doute d'elle-même, qui essaie de transmettre des belles choses à son enfant, qui essaie de faire du bien. Et la paternité politique de papa, qui est un régime de violence, justement, qui procède par intimidation. Donc pour moi, ce sont deux formes de paternité. Une paternité politique et une paternité humaine. Une que j'aime pas du tout et une qui m'est chère. Voilà, donc j'étais peu à peu rattrapé par cette actualité. Mais de toute façon, j'ai l'impression qu'on vit de plus en plus dans un régime de force. Hein, ils le disent dans le livre. Quand il faut, dans un monde de loups, il faut être un loup, c'est ce que dit papa. Et Sacha, le père de famille avec sa fille, lui, au contraire, pense que non, il ne faut pas être un loup, il faut savoir rester humain. Et c'est un roman sur comment rester humain dans un monde qui voudrait justement qu'on devienne inhumain, où le culte de la force règne. Eh bien, quel peut être le culte de la beauté et quelle peut être l'influence, la puissance, plutôt de la beauté, de l'humanité, de la transmission contre ce monde de plus en plus brutal et éphémère. La paternité, c'est un sujet qui me passionne. Et là, ce qui m'intéressait, c'est vrai que dans Plongée, il s'agissait d'un père qui écrivait à son fils, mais bébé, pour lui raconter qui était sa mère. C'est-à-dire que donc la paternité, la maternité me passionne. Mais la maternité, je ne peux pas la vivre. Alors que la paternité, je peux l'expérimenter. Et c'est vrai que je trouve que c'est une relation qui est assez peu... étudié dans le roman. Alors là, il y avait véritablement une volonté de mettre en scène une petite fille. Une petite fille qu'on déguise en petit garçon. Ça, je le dis sans trop divulgâcher, mais évidemment, comme c'est interdit aux femmes, on peut penser qu'un petit garçon serait toléré, puisqu'on est dans un monde d'hommes, mais une petite fille, non. Et je voulais que ce soit une petite fille pour perturber aussi l'ordre du mont Athos. Donc il fallait que ça soit une petite fille. Et ensuite, qui dit pour moi, peut-être parce que c'est quelque chose auquel je pense tout le temps, malheureusement, le danger sur ma famille. C'est quelque chose qui vraiment auquel je songe souvent. Et c'est vrai que je donnerais ma vie, évidemment, sans broncher pour ceux que j'aime et notamment mes enfants. Comme je suis obsédé là, par l'idée de transmission, par l'idée d'à quoi ça sert de vivre, quel est le sens de notre passage, si court, si long et si court à la fois, très vite m'est apparue, je l'ai vue, cette petite fille, et très vite j'ai entendu des phrases de cette petite fille à son père, de cette curiosité, de cet enthousiasme. Et cet enfant, et donc le sujet de la paternité aussi, vient aussi dans le livre comme une note... plus qu'une note d'ailleurs, mais d'espoir, c'est le futur. C'est-à-dire dans un monde dont nous tous, trouver refuge, d'ailleurs je pense qu'on se pose, on est beaucoup, toutes et tous, à se poser la question de si jamais j'étais menacé avec ma famille, où est-ce que je vais pour, dans quel abri je vais me protéger? On se pose la question, moi je me la pose souvent. Et donc il fallait que je donne à voir et à entendre cette petite fille et ce père inquiet, qui tente de la protéger, qui tente de lui apprendre des choses parce qu'il ne sait pas combien de temps il a devant lui d'ailleurs, mais qui aussi, c'est ce qui est beau dans les histoires de transmission, apprend aussi de sa fille. Parce qu'en fait, le fait d'avoir un enfant est une relation évidemment à deux sens, enfin, moi c'est comme ça que je la conçois. Et lui-même, en regardant sa fille, en l'écoutant par ses questions, l'enfant, c'est quoi? C'est l'enthousiasme permanent, l'étonnement permanent, la curiosité permanente. C'est chez Nietzsche d'ailleurs le dernier stade de la sagesse, c'est l'enfance. On dit souvent qu'on redevient un enfant, parfois d'ailleurs quand on vieillit. Et là, c'est vraiment le signe de l'espoir dans ce monde de violence, dans ce monde de l'éphémère, ou tout d'effacement d'ailleurs du passé, d'effacement de l'esprit critique. Et bien, cette petite fille vient poser les questions, vient demander... ce qui se passe, vient questionner ses vieux moines, interroge son père sur sa propre enfance, sur sa maman, sur la nature, on en a parlé tout à l'heure. Donc c'est vraiment la figure de l'espoir, la figure de l'avenir aussi, d'une civilisation qui pourrait retrouver justement son humanité, dans un monde où j'ai l'impression qu'on a toujours pensé aux invasions barbares. J'ai l'impression qu'en fait nous sommes... devenus en fait nos barbares. Les barbares ne viennent pas de l'extérieur. Les barbares sont en nous. Nous nous barbarisons. Et cette petite fille incarne cet espoir. Je ne sais pas pourquoi ça a évolué, mais pourquoi longtemps, si longtemps, on n'a pas, les écrivains hommes n'ont pas abordé justement cette question de la paternité. Alors il y a eu, bien sûr, il y a le grand poème de Kipling, Tu seras un homme, mon fils. J'y fais écho d'ailleurs dans Trouver Refuge parce qu'il fait un petit cahier pour elle avec d'abord en mettant les choses qui comptent pour lui. Il découpe des images, des petites choses qu'il a ramassées un peu par là pour lui transmettre ses souvenirs. Et puis après, dans le livre, il se dit mais non, mais Il faut plutôt que je raconte les souvenirs qu'elle me donne et les choses qui appartiennent à sa vie, à elle. Et donc, à un moment, il cite « Tu seras un homme, mon fils », et il dit « Ça marche aussi pour les filles ». Moi, je pense qu'en tout cas, dans mon roman, c'était impossible qu'ils se disent tout, sinon j'avais plus de roman. Dans la vie, chacun fait comme il veut. Mais ce qui m'intéresse, c'est la question de savoir est-ce qu'on connaît celui ou celle qu'on aime. Et dans Trouver refuge, qu'est-ce qui précipite en fait leur départ? C'est qu'en fait, à un moment, puisqu'il est question d'éducation et d'un monde de plus en plus violent, il y a une discussion de couple. Parce que c'est aussi, le couple, c'est aussi des discussions de couple sur l'éducation des enfants. Et Sacha se dit, mais au fond, dans un monde de plus en plus violent, est-ce qu'à Irène, on ne devrait pas lui apprendre, il dit, à être, c'est son expression, une saloperie, quoi. Il dit, on l'emmène au musée, on lui raconte des histoires, on l'emmène dans la nature, on lui apprend la beauté du monde, mais au fond, est-ce qu'on ne va pas en faire finalement une victime de la force brutale des autres? Et elle lui dit, mais si tu penses ça, là, je ne connais plus le livre par cœur, mais elle lui dit, mais arrête de dire ça, tu es en train de renier l'homme que tu es, c'est-à-dire celui qui croit justement, qui aime. Et elle lui fait une longue, elle lui dit, mais quand tu l'emmènes voir les nymphéas, ce tableau de guerre, parce que Monet peint les nymphéas en pleine guerre, et il peint quoi? Il peint la beauté. Quand tu l'envoies, tu lui parles de ce que tu aimes, c'est ce que tu es toi, tu lui transmets justement. Au contraire, on l'armera si on communique toute la beauté, ce qui nous touche. Et la beauté, c'est aussi la force du monde, c'est la force de résistance. Il y a eu, dans les périodes très sombres de l'histoire, il y a eu des grands poètes qui étaient résistants. Cette poésie aussi, on la lit encore aujourd'hui. Les nymphéas, quand on voit aujourd'hui et qu'on connaît l'histoire des nymphéas, ce peintre qui s'enferme alors qu'il y a le chaos du monde, et on pourrait penser que c'est un retrait, hein, oublier le chaos du monde pour peindre des nymphéas. Mais non, au contraire, c'est convoquer toute la beauté du monde pour faire pièce, barrage à la barbarie. Et parce qu'elle lui dit ça, ils sont au lit le soir, en bouquinant, etc. C'est le lendemain sur le plateau télé, parce qu'il rêve d'écrire un grand roman, mais il n'a jamais vraiment eu le courage ou la force de le faire. Donc c'est un intellectuel, mais en fait, il commente l'actu, on lui demande un peu de mettre un petit vernis culturel sur l'actualité. Il est un peu chroniqueur, il écrit de ci, de là. Et là, il a cette phrase, « Papa n'a pas toujours été comme ça ». Papa, c'est donc le nom qu'on donne, que toute la nation donne à ce chef de l'État. Et là, le plateau est muet. Sidéré, mais il connaît donc le passé de papa. Et ça, vous le savez, je veux dire, la peur du passé qui revient, et c'est cette simple phrase qui déclenche toute la catastrophe, et cette simple phrase, il l'a dit parce qu'à ce moment-là, il a envie de plus laisser faire et de résister, de montrer qu'il a des billes. Et le fait de montrer qu'il a des billes, peut-être, on dirait aujourd'hui, des dossiers, du dos, et bien là, c'est ça qui enraye la catastrophe. Et c'est des choses très sérieuses. On sait, le passé des présidents ont laissé dans l'histoire des choses qui ont été effacées. Si quelqu'un a la preuve de ça, ça peut se passer très mal. Donc c'est le couple, c'est leur discussion de couple, au fond, autour de leur enfant, qui provoque la catastrophe. Et ça m'intéressait beaucoup. Moi, j'aime que l'écriture soit active. Les livres que j'aime lire, les livres que j'ai préféré lire m'ont changé. L'infinitif plongée ER ne pouvait être que plongée ER et pas plongée EE. Dans plongée ER, il y a presque une injonction. Croire au merveilleux aussi, une injonction. C'est presque pourquoi ne pas croire au merveilleux. La trouver refuge, c'est presque un mot d'ordre, quoi. Aujourd'hui, voilà, pensez-y à trouver refuge. On ne sait jamais. Il y a cette idée-là. Donc il y a beaucoup, c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure des sensations, des moments de réflexion, mais j'aime qu'on ait envie de tourner les pages. Il y a un secret à l'intérieur des livres, il y a un secret que l'auteur a mis dans son histoire, mais il y a un secret souvent sur nous-mêmes. Souvent on apprend des choses sur soi quand on lit. On y trouve des choses qu'on n'avait pas prévu de trouver. Et donc, trouver refuge, je demande une participation aussi à la lectrice, au lecteur. Ils vont normalement, je veux dire, entrer dans l'histoire. J'aime qu'il se passe énormément de choses, qu'on soit guidé par une intrigue et qu'en même temps, par des moments de poésie ou de violence d'ailleurs, qu'on puisse réfléchir sur nous. Donc, ce n'est pas quelque chose qui sera un voyage calme, quoi. D'où cet infinitif, parce qu'il y a de l'énergie.
Christophe Onodibio, si vous le voulez bien maintenant, j'aimerais que vous répondiez à notre interview du Tac au Tac. Êtes-vous un écrivain diurne ou nocturne ?
Entre les deux, puisque j'écris entre 4h30 et 7h du matin, donc c'est d'abord la nuit et l'aube se lève.
De la semaine ou du week-end ?
J'écris tous les jours, donc week-end comme semaine, à la même heure, entre 4h30 et 7h du matin.
Est-ce que vous êtes plutôt canapé, lit ou bureau ?
C'est très intéressant. Je suis canapé ou lit puisque j'écris semi-allongé. Voilà, avec mon ordinateur sur les cuisses.
Alors, Romaine, solitude ou bistrot ?
Solitude de façon majoritaire, bistrot de temps en temps, mais plutôt solitude. Ouais. Quand toute la maison dort, quand la ville dort, c'est ça que je préfère.
Carnet ou ordinateur ?
Ordinateur pour écrire, carnet pour noter des phrases, mais c'est vrai que souvent je me les envoie même par mail ou par SMS avec mon ordiphone, comme je dis dans Trouver Refuge.
Est-ce que vous êtes plutôt Robert ou Larousse.fr ?
Aucun des deux.
Première ou troisième personne du singulier ?
Alors, c'est intéressant votre question. J'ai écrit 6 romans à la première personne. Je viens de découvrir le narrateur omniscient et je m'éclate vraiment, quoi. Parce que ça permet vraiment de multiplier les points de vue. Et donc ça, j'aimais bien l'économie de moyens avant de la première personne, du jeu, la subjectivité totale. Là, d'avoir de multiplier les subjectivités, les points de vue, je trouve ça renversant. J'ai adoré ça.
Présent ou passé ?
Les deux, mais le présent, j'aime l'énergie du présent.
Whisky ou café ?
Café sans sucre, très serré. Et c'est ça, pour écrire le matin, voilà, juste un café, puis un deuxième après. Mais le plus serré, le plus pur possible.
Chocolat ou cigarette ?
Chocolat, mais le moins de sucre possible et avec des amandes ou des noisettes.
Musique ou silence ?
Musique parfois pour me mettre dans une certaine température, mais très vite je la coupe car il ne faut pas que la musique qu'on écoute entre en compétition avec la musique des mots qu'on est en train de partitionner, j'allais dire.
Est-ce qu'il vous est arrivé d'écrire dans un état second et vous avez le droit d'entendre état second comme vous le voulez ?
État second, oui, ou parfois même troisième ou quatrième. Mais souvent, ça peut déclencher quelque chose, mais on s'aperçoit que c'est rarement bon, au fond. Comme l'écriture est quelque chose de physique, c'est aussi un acte de maîtrise. Le cerveau s'abandonne, mais il faut que le corps, justement, soit vigilant.
Pour vous, qu'est-ce qu'une journée d'écriture réussie ? En l'occurrence, une matinée d'écriture réussie.
Quand j'ai... je dirais pas une phrase, mais quand j'ai un bon paragraphe. Quand il y a un paragraphe dont je suis heureux. Parce que parfois, j'écris tous les jours, mais parfois c'est une phrase, deux phrases, et ça peut être parfois deux pages. Et ça, malheureusement, ça ne m'est pas donné, je ne le sais jamais avant.
Quand vous vous lancez dans l'écriture d'un roman, quand vous posez vos carnets et que vous passez à l'ordinateur, qu'est-ce que vous écrivez en premier ? Est-ce que c'est forcément le début ?
C'est forcément le début. Parce qu'en fait, ça rejoint la question sur l'infinitif. C'est au fond, ça commence souvent par cette image. Qui m'est apparu et c'est le cas d'ailleurs aussi dans Trouver Refuge.
Et alors la fin, et j'aime bien poser cette question, la fin, est-ce que vous l'avez d'entrée de jeu, est-ce qu'elle vous vient en cours de route ?
La fin, j'ai une image, je ne vais pas vous évidemment dire laquelle c'était parce que c'est vraiment ça s'est produit comme ça à la fin. La fin est une image et en fait il faut que je fasse le fil entre les deux. Mais la fin, c'est compliqué. Il nous faudrait une heure d'émission parce que c'est là qu'on ramène vraiment tous les fils. Il est évident que quand on parle d'un lieu qui est interdit aux femmes et que je vous ai dit tout à l'heure, je voulais en perturber un peu l'ordre parce que cette petite fille a le droit à la beauté. Mais pourquoi une femme n'aurait pas le droit de mettre les pieds sur le mont Athos ? Une petite fille, certes, mais pourquoi pas en plus une femme ?
Qui est votre premier lecteur ?
Ma femme.
Est-ce que vous lui donnez à lire en cours de route ou à la toute fin ?
À la fin.
Et vous tenez compte des choses qu'elle peut vous dire ?
Oui.
Je m'arrête là. Est-ce qu'il y a un mot que vous appréciez particulièrement ?
J'aime beaucoup le mot limpide. J'aime beaucoup le mot caresse. La caresse, souvent liée à l'eau. J'utilise aussi beaucoup le mot peau, j'aime beaucoup le mot peau, enfin, mais je le trouve beau écrit P-E-A-U, c'est absolument magnifique. Parce que je veux qu'on sente aussi les caresses sur la peau, que ça soit une autre peau qui caresse cette peau, ou la mer, ou un lac, ou l'eau. Voilà, j'aime notre enveloppe. En fait, je pense qu'on lit aussi beaucoup avec sa peau, en fait, avec son
corps. Avec son corps,
voilà. Et on écrit avec son corps, vraiment.
Quel est le livre qui a marqué votre enfance ?
C'est un livre de mythologie grecque, vraiment. Et d'ailleurs, je l'ai mis dans les mains d'Irène, la petite fille, hein, puisqu'elle arrive sur ce mont Athos avec des contes païens du paganisme, du vieux monde où il y avait plusieurs dieux. Non, c'est vraiment ça. J'ai été tout petit, à 13 ans, bouleversé par une professeure de grec qui, de façon bénévole, nous donnait des cours de grec tout petit et qui a fait vraiment... Moi, je suis né au Havre, en Normandie, et le ciel est souvent lourd et gris. Et elle a fait vraiment... se déchirer en deux le ciel normand pour y faire entrer le soleil de la Méditerranée avec ses héros, ses princesses, ses héroïnes tragiques, ses monstres aussi, ses aventures. Et c'est vraiment ça. Ouais, je dirais l'Odyssée, voilà, pour faire simple. L'Odyssée plus que l'Iliade, même si maintenant je trouve l'Iliade vraiment, vraiment presque plus intéressante que l'Odyssée.
Est-ce qu'il y a un livre qui a pu vous faire pleurer ?
Pleurer intérieurement, parce que je n'ai pas la larme facile. Mais oui, The Great Gatsby. Gatsby le Magnifique, ouais. Et parfois, ce qui me ferait pleurer intérieurement, c'est la poésie. Par exemple, un poème qui me fait pleurer parce qu'il m'émeut profondément, une sorte de talisman, qui est Nuit Rhénane d'Apollinaire, dans le recueil Alcool. Et tout à l'heure, j'ai failli en parler quand vous parliez d'état second. Voilà, le mot alcool au pluriel est un mot magnifique.
Avec quel écrivain, vivant ou mort, vous auriez envie de dîner ?
En ce moment, j'aimerais, et j'en parle dans Trouver Refuge, j'aimerais dîner avec Laurence Durrell, dont j'adore le Quatuor d'Alexandrie. Alors là, c'est un écrivain vraiment de la sensualité et de l'Orient, et des températures et des portraits de femmes absolument magnifiques. D'ailleurs, les femmes sont au centre de son Quatuor. Ouais, j'aimerais beaucoup en ce moment pouvoir prendre un verre. Plus qu'un café d'ailleurs, avec Laurence Durrell, du côté d'Alexandrie, en regardant le soleil se coucher.
Est-ce que vous avez déjà des pistes pour l'écriture de votre prochain
roman ? Oui, bien sûr. Ouais.
Vous avez déjà commencé ?
Je ne l'ai pas commencé, mais les images sont là.
Très bien, on ne vous demandera pas laquelle, sinon on saura
non,
tout.
Non, surtout pas, parce que le secret, alors là, pour le coup, il faut que ça reste... À la fois, c'est très agréable d'en parler, de donner... Mais s'il y a une chose que je ne livrerai jamais, avant qu'il soit écrit, après, je peux en parler à des gens de confiance pendant l'écriture, si j'ai besoin, mais... C'est de ne surtout pas, avant de s'être engouffré soi-même dans son refuge, c'est un refuge, un livre. Il y a aussi cette idée-là d'en trouver refuge. C'est-à-dire que vous construisez autour de vous votre propre monde dans lequel vous allez vous réfugier. Moi, souvent, quand dans la journée, même si j'écris pas toute la journée, je vis aussi avec mes personnages, et même avant de dormir, il y a cette idée de rentrer dans un monde qui n'appartient qu'à soi. Donc avant de le livrer, faut le construire. Ça prend là, je pense, à Leonardo DiCaprio dans Inception de Nolan. Mais il y a cette idée-là, la puissance de l'imagination, même si c'est adossé au réel, même si on prend un événement du réel et qu'on va tordre pour en faire de la fiction, mais il y a tellement de choses vraies empruntées ici ou là. Et en revanche, il faut pas... Si vous dévoilez ça avant que vous soyez vraiment complètement dans ce refuge-là, ça risque de... Là, je suis très superstitieux par rapport à ça. Ne rien dire quand ce n'est pas le moment.
Christophe Onodibio, est-ce que vous nous avez livré tous vos secrets d'écriture ou bien en avez-vous gardé quelques-uns pour vous ?
Nous n'avons qu'une heure. J'ai été très sincère. J'en ai livré beaucoup. Il faudra peut-être que je revienne pour la suite, mais...
Avec joie.
Mais il y en a pas mal.
Merci à Christophe Onodibio et aux éditions Gallimard. Je rappelle que Trouver Refuge a paru le 18 août 2022. Si ce podcast vous a plu, ce que j'espère vivement, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous laisser vos commentaires. Et puis pour découvrir de nouveaux secrets et les coups de cœur de la rédaction, rendez-vous en kiosque ou sur le site femmeactuelle.fr. À bientôt!